Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Europejskie skrzyżowania.
Daniel Desesquiel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Depuis presque un an, l'Irlande du Nord est gouvernée par une coalition qui réunit des partis protestants et des partis catholiques. Pour en arriver là, il a fallu 35 ans de guerre, un peu moins de 4000 morts et les fameux accords du Vendredi Saint signés il y a tout juste 10 ans. C'était le 10 avril 1998. Aujourd'hui en Irlande du Nord, les catholiques et les protestants vivent en paix, pas vraiment ensemble, plutôt chacun chez soi, mais les préoccupations sont devenues davantage économiques que religieuses. L'appartenance de l'Ulster au Royaume-Uni n'est plus vraiment contestée par les catholiques du Sinn Féin. D'ailleurs, sa gracieuse majesté Elisabeth II vient de rendre visite à ses sujets nord-irlandais. Quant à Belfast, la capitale de l'Ulster, c'est devenu une destination touristique prisée. Bonjour Serge Salandon.
Bonjour.
Vous avez été journaliste au quotidien Libération, ça veut dire que vous l'êtes toujours encore un peu, car quand on était journaliste, on le reste longtemps. Mais c'est de plus en plus l'écrivain que nous recevons à nos micros. Votre dernier livre chez Grasset s'intitule Mon traître, il raconte sous une forme romancée votre histoire irlandaise et votre amour pour ce pays, c'est ça ?
C'est exactement ça.
John Maguire, bonjour.
Bonjour Daniel.
Nos auditeurs en langue anglaise vous connaissent bien, vous avez été longtemps le rédacteur en chef de la rédaction en langue anglaise de RFI, même si aujourd'hui vous occupez d'autres fonctions au sein de notre radio. Jane Moritz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous de Belfast. Vous avez été, entre autres, une des fondatrices d'un petit parti très original, puisque ni catholique ni protestant, mais œcuménique, je crois qu'on peut dire ça, qui s'appelait la Coalition des Femmes, Women's Coalition. Vous avez été élue en 98, battue en 2003. Vous avez pris un peu de recul par rapport à la politique, mais vous êtes toujours une observatrice attentive de l'évolution de votre pays. Serge Salandon, on l'a déjà un petit peu oublié, mais la guerre en Irlande du Nord a été longue, meurtrière. On l'a souvent présentée comme une guerre entre les protestants et les catholiques, ce qui était quand même un raccourci.
C'est un raccourci un peu facile, oui. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une guerre entre deux identités. Les catholiques d'Irlande du Nord qui sont soit nationalistes, soit républicains. Les protestants qui sont unionistes ou loyalistes. Loyaux à la Grande-Bretagne et souhaitant maintenir l'union, non pas de l'Ulster, mais des six comtés d'Irlande du Nord à la Grande-Bretagne, puisque l'Ulster comporte 9 comtés. Et donc, je pense que lorsqu'on dit guerre de religion ou guerre entre les catholiques et les protestants, c'est une paresse journalistique ou paresse tout court. Et c'est quelque chose de plus compliqué. Que ça. J'ai appris depuis 30 ans qu'il y avait des peurs des deux côtés. Il n'y a pas une peur que chez les minoritaires. Il y a aussi une peur chez les majoritaires, chez les protestants. Mais voilà, donc on dit protestant d'un côté et catholique de l'autre parce que c'est plus simple. Il faudrait dire unioniste d'un côté, républicain de l'autre. Les gens s'y perdent. Donc comme ça, c'est un raccourci un peu saisissant mais qui permet aux gens de faire la différence.
Alors votre guerre à vous, de grand reporter à Libération, a été celle d'une amitié trahie. C'est le cœur de votre livre. En quelques mots, Serge Salandon.
En quelques mots, j'ai été très très ami avec un homme qui a été d'abord un contact, puis un copain, puis ensuite un ami proche qui s'appelait Dennis Donaldson. Et Dennis Donaldson, effectivement, trahissait son mouvement qui était le mouvement républicain irlandais. Je n'ai pas écrit un livre sur Dennis Donaldson, c'est pas un livre de reportage, c'est un roman qui n'est pas un roman à propos de Dennis Donaldson, mais un roman qui est né après la douleur que m'a provoqué sa trahison. Voilà.
Dans une interview, vous expliquez « J'en veux à ceux qui ont obligé Dennis Donaldson à trahir ».
J'ai repris en cela une phrase d'un grand Irlandais qui disait « Je n'en veux pas aux Britanniques pour nous avoir arrêtés, incarcérés, torturés ou tués, je leur en veux pour nous avoir obligés à tuer ». Et j'en veux effectivement à cette guerre d'avoir obligé Dennis Donaldson à trahir. Je n'ai pas fait le chemin encore, ni du pardon, ni de la compréhension. Mais en tout cas, je sais que je l'aurais fait le jour où j'estimerais que Dennis était l'une des victimes de cette guerre. Ce n'est pas le cas pour l'instant.
Écoutez, Serge Salandon, Jane Moritz, on comprend mieux que l'Irlande du Nord revient de loin. Que reste-t-il de cette période aujourd'hui dans la vie de tous les jours ?
Il y a un changement incroyable maintenant dans la vie de tous les jours. De voir comment c'était il y a 10 ans, il y avait toujours l'armée dans les rues, il y avait les atrocités terribles comme Oma, quand 29 personnes ont été tuées, les scènes atroces des petites filles qui étaient attaquées en route de l'école, et aussi les suspensions de l'Assemblée presque 4 fois dans la période juste après les accords de paix. Mais maintenant, tout est vraiment changé, c'est juste depuis la dernière année.
John Maguire, est-ce que ça a autant changé que semble le dire Jane Moritz? Vous allez souvent en Irlande, c'est votre pays.
Tout ce qu'elle a dit est absolument vrai. Par exemple, il n'y a plus d'armée dans la rue, il n'y a plus de tuerie, il n'y a pas d'explosion, il y a eu le désarmement, il y a le parlement qui fonctionne. Mais il y a des choses qui n'ont pas du tout changé non plus. Je pense par exemple à ce qu'on pourrait dire la balkanisation de l'Irlande du Nord, c'est-à-dire il y a eu un transfert de population. Je schématise, mais plutôt nationalistes républicains vers l'ouest et vers l'est, les loyalistes et les unionistes, avec l'exception de Belfast, qui est actuellement majoritairement Sinn Féin républicain. Mais ça existe toujours, les deux communautés ne se mélangent pas, ils ne font pas la fête ensemble, ils ne se marient pas entre eux. Juste un petit chiffre, depuis les 10 ans de l'accord de Vendredi Saint, on a construit 17 murs de paix, 10 murs de paix, parce que c'est pas 10 murs de paix, encore, et le but de l'opération était justement de les déconstruire, mais là on a construit 17. L'autre chose, le Parlement même, sur les 112 et quelques sièges dans ce Parlement dévolu à Belfast, à Stormont, il n'y a que 9 membres qui n'ont pas d'appartenance selon le schisme, si vous voulez, unioniste d'un côté, républicain de l'autre. Donc ça n'a pas changé. Il y a une chose qui a changé pour le positif, c'est l'économie, par exemple. Il y a bien sûr, depuis les 10 ans, une chute de 7% dans le chômage, qui est très positif. Il y a eu un investissement venu de l'extérieur, surtout de la Grande-Bretagne, de la République d'Irlande, qui est par hasard le deuxième pays le plus riche dans les 27 de l'Union européenne, après le Luxembourg, donc ils ont investi beaucoup, et bien sûr les États-Unis. Donc ça c'est très positif. Un côté aussi du boom économique qui est moins positif pour beaucoup de monde en Irlande du Nord, c'est que le prix des logements, des maisons, ont augmenté de 400%. Donc, ça exclut pas mal de monde. Et j'irais bien à l'exclusion. Parce qu'une chose que Sorge ni Jean n'a pas dit, mais que je tiens à dire, c'est qu'une des autres causes du conflit, c'était la lutte de classe. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de pauvres dans les deux communautés. On peut schématiser en disant que les républicains en général étaient les plus démunis.
C'est-à-dire les catholiques.
Des catholiques républicains. Parce qu'en général, les nationalistes étaient plutôt sociaux-démocrates et middle class. Et vous avez la même chose dans la démographie à l'autre côté. Les unionistes étaient les middle class protestants et les loyalistes, les travailleurs qui travaillaient dans les chantiers navals à Belfast, par exemple, et qui étaient concentrés à Belfast Est. Ils sont toujours là à Belfast Est. Les républicains sont toujours là à Belfast Ouest. Donc ça n'a pas changé.
Carrefour de l'Europe.
Sir Charles London, John McGuire faisait référence aux murs, ces fameux murs qui ont séparé, qui ont coupé la ville de Belfast en deux et pas seulement Belfast.
C'est pas qui ont, c'est qui coupe. Il y a une très belle émission sur la BBC qui s'appelle Panorama. La prochaine émission, c'est cette semaine. Il y a Dick Lanlon, est un journaliste irlandais, qui a dit qu'il y avait plus de murs maintenant, même physiques, qu'il y a 10 ans. Donc le paradoxe, c'est que les murs dans les têtes restent, et il y a d'autres murs qui sont élevés. Il cite le cas de 2 arrêts de bus à 100 mètres d'intervalle dans le nord de Belfast. C'est le même bus qui fait le même trajet, sauf que de façon réelle et de façon physique, les catholiques prennent plutôt un arrêt et les protestants l'autre. C'est-à-dire que les choses restent en l'état, la méfiance reste en l'état. Et j'avais deux petites choses, c'est que ce n'est pas la paix, c'est un processus de paix, ce n'est pas des accords de paix, c'est une base de discussion minimale. Et tout à l'heure, je pense que vous avez dit que les républicains ne contestent plus l'appartenance de l'Ulster au Royaume-Uni. Évidemment que si. La seule chose, c'est qu'ils ont décidé de faire de la politique par d'autres moyens, et l'appartenance des 6 comtés d'Irlande du Nord à la Grande-Bretagne reste contestée, évidemment, et à terme. Mais maintenant, dans le cadre strict des accords de paix, à terme, eh bien, les républicains irlandais ont admis qu'il n'y aura pas de changement de statut pour l'Irlande du Nord tant que la majorité du peuple d'Irlande du Nord ne sera pas prononcée en sa faveur.
J'aimerais, vous qui vivez à Belfast, en Irlande du Nord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que viennent dire John McGuire et Sir Chalandon, c'est-à-dire évidemment des changements, ce n'est plus la guerre, évidemment une relative prospérité économique, un développement non négligeable, mais tout de même des barrières et des frontières dans la tête?
Je ne suis pas d'accord tout à fait avec eux, parce que quand on parle de West Belfast qui est catholique et de l'Est qui est protestant, il faut dire qu'il y a le Sud et le Nord qui est mélangé aussi, et il y a des efforts très grande pour, par exemple, l'éducation intégrée, pour avoir les enfants catholiques et protestants qui vont à l'école ensemble. Maintenant, il n'y a que 6% qui vont à l'école ensemble, mais ça commence à changer. Et je dois dire que quand on dit que c'est un processus de paix, c'est bien, mais pour moi, c'est une réussite, parce qu'il n'y a pas des gens qui sont tués dans les rues maintenant. C'est de la réconciliation maintenant qui commence. Et ça va prendre beaucoup de temps. Et il faut reconnaître ça. Mais vraiment, finalement, ce que s'est passé, c'est que les hommes politiques, ils ont finalement écouté le peuple qui a voulu une fin à ce conflit. Alors, c'est le peuple, la société civile qui essaie de faire connaître aux politiciens ce qu'ils voulaient. Et finalement, les politiciens ont écouté.
John McGuire, vous vouliez réagir.
Oui, moi, j'ai jamais nié qu'il n'y a pas eu de progrès
bien
sur
sûr.
Le plan social ou économique.
Bien sûr.
Mais je tiens à répéter qu'il y a quand même une division politique qui est très réelle. Je pense par exemple à la nomination ratée pour l'instant d'un commissaire pour les victimes et les survivants de ce qu'on appelait les troubles de la guerre civile, si on veut. Les hommes politiques des deux bords, que ça soit Ian Paisley, qui était l'ex-premier ministre de l'Irlande du Nord, et Martin McGuinness de Sinn Féin de l'autre, le deuxième, son adjoint, si vous voulez, ils n'arrivaient pas à trouver un candidat commun. On est là pour l'instant. Il y a un problème toujours avec ça.
Alors, ils ont trouvé une solution. Ils ont nominé 4 personnes pour être les champions des victimes. Et alors, ça, c'est une solution. Pourquoi pas? C'est très bon.
C'est pas exactement une signe de l'unité.
Alors justement, en tout cas, les leaders de l'accord du Vendredi Saint, les coparins déjà, Tony Blair, Bertie Ahern, et puis Ian Paisley, que vous évoquiez, le leader des protestants, le célèbre Dr No, ont quitté ou sont en train de quitter le pouvoir. Seul Gary Adams, l'historique leader du Sinn Féin, reste, disons, en place. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération politique qui est en train de voir le jour en Irlande du Nord? Et est-ce que ça change quelque chose? John McGuire, vous voulez répondre?
Il y a une nouvelle génération, bien sûr, et une nouvelle génération plus radicalisée. Parce que qu'est-ce que c'était la situation avant Vendredi Saint? Il y avait un parti unioniste d'Ulster qui était majoritaire. Il y avait en deuxième position une parti middle class nationaliste qui s'appelait Social Democratic and Labour Party. Et il y avait d'autres partis, le DUP de Dr No, comme vous l'avez décrit, et Sinn Féin de Gerry Adams. Quelle est la situation maintenant? La situation maintenant, c'est les deux extrêmes, entre guillemets, ont le pouvoir. C'est-à-dire, c'est le DUP qui est en numéro 1, le Sinn Féin en numéro 2, et puis, qu'on le veuille ou non, le Parti Unioniste et la SDLP sont minoritaires, et malgré le fait qu'ils ont des sièges, ils n'ont pas un poids politique sur la région. C'est ça qui est important.
Jane Morris, c'est un peu votre histoire, hein. Vous étiez cofondatrice d'un parti, je vais dire œcuménique, même si c'est pas forcément le mot juste, en tout cas qui regroupait et des catholiques et des protestants, avec cette particularité, c'est qu'il n'y avait que des femmes dans votre parti, dans votre liste. Vous avez été élue en 98 au moment des accords du Vendredi Saint et battue 5 ans après. C'est tout de même le fait que les extrêmes gardent, disons, la prééminence en Irlande du Nord.
Oui. En fait, comme parti, on était créé pendant 10 ans. Et on a réussi parce qu'on a voulu montrer que c'était possible de se mettre d'accord, de laisser les ambitions, les aspirations unionistes ou nationalistes, protestants ou catholiques ou autres, à côté et de regarder la cause commune et de voir que c'était plus important d'arrêter la violence et de travailler pour la justice et l'égalité. Et c'est exactement ça. Et une fois qu'il fallait mettre en place les systèmes pour partager le pouvoir, le système pour promouvoir l'égalité, pour un changement dans la police, etc. Alors, une fois que ça s'était créé, alors, la seule chose qui restait était de construire la confiance entre les partis. Et c'est ça exactement ce que se passe maintenant. Il a fallu que les extrêmes viennent au centre. Je vois ça maintenant. Il a fallu ça pour que l'Irlande du Nord soit en paix avec soi-même.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Jean-Charles Lambron, dans votre livre, vous fait dire au fils de votre héros une phrase que vous avez déjà prononcée, à savoir, il ne faut pas confondre la paix et le processus de paix. Mais est-ce que ce processus de paix, il est toutefois irréversible, selon vous?
Je pense qu'il est irréversible. Dès 1997, les gens de l'Irak qui nous donnaient des interviews, même au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'état-major ou même du Army Council, disaient de façon extrêmement nette, the war is over, la guerre est finie. La guerre est finie, sauf qu'ils ne sont toujours pas assez la main, c'est-à-dire que...
Alors pourquoi 10 ans? La guerre est finie en 98 et il a fallu 9 ans pour qu'il y ait un gouvernement?
Parce que c'est extrêmement long, parce que ce gouvernement, d'un côté, par exemple, en ce moment, les Républicains souhaitent toujours que les problèmes de police et de justice soient dévolus au Parlement. Comment voulez-vous enterrer une méfiance vieille de 30 ans? Si on prend des gens comme Martin McGuinness, si on est absolument concret, les hommes de Martin McGuinness, pas ses hommes sous ses ordres, mais en tout cas les hommes de Martin McGuinness proches,
c'est-à-dire de l'IRA,
ont bombardé le 10 Downing Street il y a 15 ans, et aujourd'hui ils prennent le petit déjeuner au 10 Downing Street. C'est une avancée énorme, mais en même temps, le drapeau britannique flotte toujours sur le Parlement, le drapeau irlandais n'y est pas autorisé, en même temps, les minoritaires, leur langue reste une langue un peu morte. Enfin moi, les gens que je connais, des gens de l'IRA qui ont eu le courage politique d'appeler à la trêve, sont devenus des hommes et des femmes au chômage. Ces gens-là n'ont pas bénéficié ni des mannes de la société, ni rien. Et je trouve qu'il faut un courage incroyable pour être au chômage, pour attendre, pour ne pas avoir l'impression que les objectifs ont été atteints. C'est vrai que l'on ne meurt plus dans les rues, mais en même temps, l'hymne national reste l'hymne britannique et le drapeau qui flotte n'est pas le leur.
Un mot sur qui est devenu la mémoire de Bobby Sands, le héros emblématique des catholiques, des républicains irlandais.
Écoutez, il y a deux tendances. Il y a des républicains qui disent qu'il est mort pour rien. C'est une minorité infime. Ce sont ceux qui refusent le processus de paix. Bobby Sands avait dit, ça a été l'une de ses phrases, « Notre revanche sera le sourire de nos enfants ». Et je pense que les enfants sourient en ce moment plus qu'il y a 10 ans. Et je pense que la revanche a été prise.
Jeanne-Marie, je voulais vous demander, quel a été le rôle de l'Europe et est-ce qu'il y en a eu un dans la résolution du conflit nord-irlandais? Il faut avoir en mémoire que les deux coparins, c'était Tony Blair, le Premier ministre britannique, et Bertie Ahern, le Premier ministre irlandais qui est en train de quitter le pouvoir, deux pays qui appartenaient à l'Union européenne. Est-ce que ça a facilité les choses? Est-ce que ça a eu un rôle ou pas?
Il y avait certainement un rôle européen et c'est pas très bien reconnu. Non seulement il y avait l'opportunité pour les premiers ministres de se rencontrer dans les endroits neutres, mais aussi il y avait un grand programme de paix qui était créé par la Commission européenne, le Peace Programme, qui a donné des millions d'euros pour les petits projets de réconciliation entre catholiques et protestants, entre les femmes, entre la jeunesse, pour la frontière aussi. Beaucoup, beaucoup de choses. Et ce programme est toujours en place. Il y a beaucoup de gens dans les grassroots, si vous voulez, qui reconnaissent ça. Les Américains sont venus, mais c'était la haute politique, ça. La présidente, le Clinton qui est arrivé, etc. Mais je vois la contribution européenne était encore plus importante parce que c'était vraiment bottom-up. C'était vraiment pour essayer de donner de l'argent, pour donner les incentives pour que les gens puissent travailler et être éduqués ensemble.
John McGuire, d'un mot sur cette question.
Je suis d'accord avec Jane, absolument. Je pense qu'il y avait un seul homme, peut-être, en Irlande du Nord à l'époque, qui a représenté le problème, a expliqué le problème, et a demandé de l'aide, a demandé de l'argent, de l'investissement, et c'était le prix Nobel de la paix, John Hume, du parti Social Democratic and Labour Party, qui faisait partie de l'Internationale Socialiste. Il a martelé à chaque occasion, il est venu à Paris voir des gens, parler avec des gens à Bruxelles, expliquer quel était le problème. Il a mené les deux partis, surtout les républicains, je dois dire, à la table. Il disait toujours, il m'a dit à plusieurs reprises, c'est une question d'abord économique, mettons l'argent dedans, enlevons la pauvreté, la discrimination, et on commence à créer quelque chose de mieux.
Sœur Charlondon, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Belfast est devenu une destination touristique prisée, un peu originale. Hein. On est quand même loin de l'exaltation aventureuse des années de guerre que vous avez connues.
C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, ce qui me plaît, ce qui me choque en même temps, c'est que pour un mariage ou pour un anniversaire, maintenant, vous pouvez louer un blindé britannique, vous pouvez louer des uniformes. Et vous pouvez remonter False Road avec...
C'est-à-dire le quartier catholique.
Le quartier catholique ou même Shankly Road, le quartier d'Est Belfast protestant. Et vous pouvez louer des blindés, vous pouvez vous promener comme ça, etc. Alors, est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va pas assez vite? Je pense qu'on dit toujours il faut tourner la page. Mais avant de la tourner, je pense qu'il faut la lire complètement. Est-ce qu'elle a été lue complètement dans son entier? Je l'espère. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, Belfast est une ville qui bouge, est une ville qui vit. Mais il y a toujours des pauvres. Il y a toujours le problème, il est absolument intact, il est entier.
Sœur Charlondon, je rappelle le titre de votre livre, Mon traître chez Grasset, c'est un regard et une aventure personnelle, mais c'est aussi une façon de découvrir l'Irlande et les Irlandais. Enfin, c'est surtout un très beau roman. Sœur Charlondon, Jane Morris, Jane McGuire, merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Merci à Liane Clancier, Jean-Marc Meunier et Alexis Levavasseur qui ont tantôt préparé, tantôt réalisé cette émission que vous pourrez réécouter sur le site rfi.fr, onglet radio, émission Carrefour de l'Europe. Daniel des Escales, je vous souhaite une bonne semaine européenne.
Pour réagir à l'émission, carrefour.europe@rfi.fr.